Malgré les couches culottes lavables et bio, vous n'aurez peut-être pas le temps de vous déplacer pour faire votre shopping bio, mesdames. Et je vous rappelle que c'est le sujet de cette émission. Alors, voilà quelque chose qui va vous faciliter la vie pour faire vos emplettes bio à distance avec le Bazar Bio d'Elena et Stéphane Marino. Et c'est Elena qui est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir Noël.
Votre concept, c'est Store Green, traduction ?
C'est un concept store green, c'est-à-dire qu'on essaye de réunir des marques alternatives, branchées et fun, mais qui respectent l'environnement.
Yes. Pourquoi pas en français ?
Pourquoi pas en français ?
Oui. Parce que c'est comme ça ?
Oui, voilà, c'est comme ça.
C'est sur Internet, vous êtes une centrale d'achat virtuelle, en quelque sorte.
Voilà, c'est uniquement sur Internet, donc bazar-bio.fr. Mm-hmm. On n'a pas de boutique en dur.
Qu'est-ce que vous vendez ?
Alors, on vend un peu de tout, c'est un vrai bazar. Donc, il y a des cosmétiques, du parfum, des vernis à l'eau pour les enfants, des cosmétiques pour les enfants, des bijoux, des sacs en cuir bio, des jouets en bouteilles de lait recyclées pour les enfants également.
Où est-ce que vous les trouvez, toutes ces marques ? Comment vous les sélectionnez ? Comment vous les repérez ?
Alors, je regarde beaucoup sur Internet et je fais également pas mal de salons. Donc, je pars la semaine prochaine, par exemple, sur un salon à Paris qui s'appelle Beyond the Beauty.
Dans quelle partie du monde ils sont fabriqués ?
Alors, on essaye de sélectionner au maximum des marques françaises pour limiter le déplacement.
L'impact carbone.
Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'en France, on trouve encore peu de marques sexy et glamour en cosmétiques bio. Donc, on va chercher aussi des marques en Angleterre, marque phare pour les cosmétiques, qui est la marque Ren, donc qui est anglaise. On va aussi aux États-Unis pour les jouets qui sont fabriqués en bouteilles de lait recyclées. Et on a aussi une marque australienne, la marque Nveco, c'est du maquillage biologique.
Et c'est vous qui allez chercher là-bas ou c'est vraiment les...
J'aimerais bien y aller de temps en temps un peu pour faire des vacances, mais non. Il y a beaucoup de distributeurs en France et aussi on importe on importe les produits. Mais je rencontre tous les fournisseurs pour m'assurer de la démarche écologique des marques.
Dans quelle mesure on peut faire confiance aux labels qui vous sont proposés ?
Alors, les labels sont vérifiés, sont contrôlés, donc on peut les faire confiance. Mais comme disait une intervenante tout à l'heure, c'est vrai que dans le bio, dans l'écologie, les rapports humains sont très sympas, les gens sont honnêtes et on peut faire confiance à ces marques-là qui veulent vraiment s'investir dans l'écologie, dans le développement durable et pour consommer autrement, pour consommer mieux, moins, mais autrement.
Mais vous rencontrez tous les fabricants ou pas du tout généralement ?
Si, voilà, je les rencontre. C'est pour ça que je me déplace sur les salons, ouais. C'est pour les rencontrer.
Mais vous n'êtes pas sur les lieux de fabrication ? Vous n'allez pas sur les lieux de fabrication ?
Non, je ne me rends pas sur les lieux de fabrication, mais je parle beaucoup avec les directeurs des marques.
Il y a des produits que vous avez refusés, par exemple ?
Oui, il y a des produits que j'ai refusés, parce que même s'ils ont été labellisés bio, il y a des ingrédients à l'intérieur qui ne convenaient pas.
Vous pouvez nous citer un exemple ?
Oui, je ne vous citerai pas la marque, mais il y a des shampoings où il y avait des produits qui étaient cancérigènes à l'intérieur et qu'on n'a pas voulu faire sur Bazar Bio.
Alors, comment peut-on les labelliser bio ?
Alors, parce que
C'est là où il y a quand même un hiatus, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, je comprends très bien. Alors, nous, voilà, on veut juste préciser ça, c'est qu'on n'est pas dans une vision culpabilisante et stressante du bio. C'est-à-dire qu'on veut juste montrer que le bio, ça peut être aussi fun, design et efficace. D'ailleurs, plus efficace que certaines cosmétiques traditionnelles, puisque le naturel est mieux reconnu par la peau. Donc, on ne va pas chercher la petite bête sur les ingrédients, etc. On vérifie que tout soit bio, écologique, mais on fait confiance aussi au label. Alors après, on a des marques qui sont naturelles, mais qui ne sont pas certifiées bio, comme notre marque Ren, donc qui est la marque de soins du visage, qui n'est pas certifiée bio parce que elle met au centre de son processus de fabrication la composition et l'efficacité. C'est-à-dire qu'elle veut faire un peeling. Si le peeling, par exemple, avant, les peelings naturels n'existaient pas. Donc ils ont décidé de ne pas faire de peeling. Maintenant, il existe des ingrédients pour faire des peelings naturels. Donc ils ont décidé de fabriquer des peelings. En revanche, le peeling ne peut pas être bio. Donc ils n'ont pas décidé de se faire certifier bio, mais tout est naturel. Ils sont dans une démarche également de faire des packagings biodégradables avec du papier recyclé, des encres végétales, etc.
Est-ce que la démarche commerce équitable est quelque chose qui vous importe ou pas ?
Oui, une grande majorité de nos produits sont commerce équitable également. Par exemple les savons du Dr Brunner. Là, c'est une marque extraordinaire parce que ça fait 5 générations qu'ils produisent ce savon. Ils sont leaders sur le marché aux États-Unis et sur le marché japonais. Ils sont pratiquement inconnus en France. Et donc, donc nous, on propose sur Bazar Bio donc ces savons qui sont faits à partir de savon de Marseille et qui sont biodégradables, commerce équitable et à 75% biologique.
Alors on a parlé bio, on a parlé commerce équitable, on va parler un peu éthique. Quelle est l'éthique dans votre commerce?
Alors nous, dans notre commerce, tous nos envois se font dans des cartons qui sont faits qui sont recyclés et recyclables. Les scotchs sont aussi sans solvant. Nos étiquettes que nous collons sur les cartons sont sans solvant, papier recyclé, encre végétale, etc. On essaye d'être au maximum transparent et neutre dans notre démarche.
Les gens commencent à prendre l'habitude d'acheter sur Internet ou c'est encore difficile? Parce qu'on a vu tout à l'heure avec un site qui avait du mal à démarrer, mais peut-être pour vous qui avez cette spécialité, c'est plus facile?
Alors, je pense que les gens ont de plus en plus l'habitude d'acheter sur Internet. On est tout nouveau, on a 5 mois d'existence, donc je ne peux pas encore vous en dire plus là-dessus. Mais c'est vrai que nous, nos marques, elles sont peu représentées dans les magasins en France, ce qui fait que les gens viennent sur Internet pour les acheter. Parce que c'est vraiment des marques alternatives que l'on ne trouve pas ailleurs.
Vous avez combien de connexions par mois? Vous pouvez avoir un chiffre approximatif ou pas?
On a à peu près 6000 connexions par mois. Mais comme je vous disais, on est tout nouveau, donc on espère avoir beaucoup plus de connexions.
Et vous avez des clients qui viennent de la région, qui viennent de la France, qui viennent de l'étranger, de l'Europe, du monde entier?
Alors, on a des clients niçois parce que nous livrons, on est une société qui livre à vélo à Nice dans la journée, donc c'est très pratique pour les clients qui veulent avoir leurs produits tout de suite après avoir acheté sur Bazar Bio. Et ensuite, on vend en France et en Europe et on va étendre très bientôt, d'ici la fin du mois de septembre, la livraison dans le monde entier.
Merci Elena Marino.
Bah,
c'était Bazar Bio. Répétez, on va refaire pub. Répétez le site de votre store Green.
Alors le site c'est bazar-bio.fr. On a un blog aussi, donc vous faites /blog après et tous les 3 jours vous avez un nouvel article sur le blog.
Merci.
Merci à vous.
Enfin, notre dernière invitée c'est Denise Merlasland, l'association Chamaran. Association pour un commerce équitable et protection du patrimoine culturel. Vous êtes affilié au réseau Minga. Qu'est-ce que c'est votre association?
Alors, dans le style du réseau Minga, ce sont des associations qui s'occupent aussi beaucoup de la production et des modes de production. C'est-à-dire que un biologique avec des critères plus stricts que ceux que demandent les normes européennes, c'est-à-dire aussi l'agriculture biodynamique, mais des critères qui excluent aussi les plantations, parce que les plantes sont beaucoup plus attaquables dans un régime de plantation que dans un régime de jardin. Et donc, ça permet de limiter les produits chimiques, mais aussi une non-viabilité de la terre un peu.
Alors, vous êtes une centrale d'importation et de diffusion.
Oui.
Qu'est-ce que vous importez? Qu'est-ce que vous diffusez?
Alors, nous, on importe à travers des projets de coopération qu'on a fait vers le Moyen-Orient, et en particulier le Kurdistan en ce moment. On importe surtout du textile et des bijoux. Et c'est un peu le secteur qu'on a pour l'instant. On développera un peu plus tard le secteur agricole. Avec le réseau, par contre, on dispose de tous les produits possibles.
Alors, vous faites surtout du commerce avec la zone kurde de la Turquie, c'est bien ça?
Au niveau de production.
Au niveau des productions.
Oui, oui, oui.
Kurdes, alors, il faut rappeler, c'est intéressant, on va revenir sur les Kurdes parce que c'est quand même extrêmement intéressant. Il faut rappeler que les Kurdes, c'est une nation sans État, qui se partage entre 5 pays, donc la Turquie, bien entendu, et c'est probablement la population la plus importante, l'Iran, l'Irak, la Syrie et une partie de l'ancienne URSS, c'est ça?
Non, une partie du Liban. En URSS, ils ont été accueillis comme réfugiés.
D'accord. Ils sont aussi au Liban?
Oui.
Mais en Syrie aussi?
Oui.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à prospecter là-bas?
Bien, le fait d'avoir travaillé avec des organisations italiennes très longtemps sur l'Irak au temps de l'embargo.
Et en quoi le commerce que vous faites avec eux est-il équitable?
Parce que, c'est tous les critères du commerce équitable, c'est-à-dire de payer un juste prix le travail des personnes et également de le faire là-bas parce que les centrales traditionnelles ne travaillent pas dans les pays dans les zones de conflit. Donc nous, on s'est positionné sur les zones de conflit.
Donc zone de conflit, Kurdistan, Turc, ceux qui fabriquent sont tous des réfugiés?
Oui.
Et j'ai l'impression quand même que depuis la capture de l'ancien chef du PPK, c'est-à-dire Ocalan, les Kurdes de Turquie étaient un peu plus tranquilles, on les laissait un peu plus
la situation s'est beaucoup améliorée, mais il reste quand même 5 millions de réfugiés internes qui ont été chassés des terres. Donc c'est des paysans qui sont restés sans terre. Et le problème reste.
Ouais, et les Turcs vous laissent faire ?
Oui, parce que ce n'est pas... Bon, nous, on se tient quand même assez loin de la politique, justement pour éviter que l'action de travail, disons, de relation avec ces coopératives et ces groupements de producteurs puisse avoir des problèmes. Donc, on se tient loin des problèmes politiques, disons.
Et est-ce que c'est difficile, commercialement parlant, de pouvoir exporter ces produits dans une région qui est quand même assez reculée et la faire venir en France, par exemple ?
Non, c'est des problèmes logistiques liés à la sécurité. Oui. Mais au niveau des transports, la Turquie est très bien...
Bien organisée.
Oui, très bien organisée et même saine, on pourrait dire. Ce n'est pas un pays où il y a des problèmes de corruption aux frontières.
Ça a du succès, vos produits, en France ?
Oui, parce que c'est quand même une zone où il y a un grand savoir-faire, donc de grandes traditions, et donc on profite quand même de cette tradition, parce que on a adapté aux réfugiés des cours, et donc la filigrane d'argent, par exemple, de cette zone, du Kurdistan entre la Syrie et la Turquie, c'est la plus réputée du monde. Donc, on a ses avantages quand même.
Quel a été le résultat sur place au niveau du développement, des villages, des gens des...
Alors, au niveau de l'artisanat, l'impact n'est pas énorme. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on veut travailler beaucoup sur des projets agricoles. Parce qu'il y a beaucoup de produits agricoles qui viennent de Turquie sous le nom de commerce équitable, mais ils viennent des zones turques. Parce que justement, c'est très difficile administrativement d'arriver à dépasser les obstacles qui sont faits dans les zones kurdes. Mais dès l'année prochaine, on aura aussi des produits de coopératives kurdes créés par nous.
L'association Chamaran, dont vous faites partie, vous êtes la représentante, fait partie du réseau Minga. Qu'est-ce que c'est ?
Bien, justement, c'est parce que nous travaillons aussi avec d'autres coopératives du réseau. Donc, on fait toute une série de produits alimentaires qui sont pas seulement des produits équitables, par exemple, comme exotiques, comme le sucre, le cacao et tout, mais aussi avec les producteurs locaux, français y compris. Et c'est justement une autre idée de l'agriculture. Donc, travailler sur le jardin. L'idée de jardin contre la plantation qui est le meilleur garant de l'agriculture biologique. Et on travaille pour pouvoir offrir des services aussi qui soient à la portée un peu de bourse de tout le monde. On travaille beaucoup avec les comités d'entreprise par livraison.
Vous avez un projet de teinture équitable.
Oui, c'est-à-dire, c'est pas seulement teinture équitable, c'est que le problème du textile biologique, c'est que souvent, le coton est biologique, mais pas la teinture. Or, les teintures, en particulier les teintures fluo ou les teintures noires, sont très toxiques si elles sont chimiques. Donc, avoir un coton bio avec une couleur chimique, ça annule une bonne partie du bénéfice du bio. Donc, le problème de la teinture est très important.
Merci, Denise Merlaslan. Si on veut aider l'association Chamaran, où est-ce qu'on s'adresse ?
On s'adresse pour connaître un peu les produits à livretout.fr. Et sinon, nous sommes au 16 avenue Poliani, à Nice, à côté de l'Acropolis.
Merci de nous avoir écoutés. S'il faut souffrir pour être belle, j'espère vous avoir convaincu que vous pourriez l'être grâce au bio et au commerce équitable. Merci à Céline Méricali qui a préparé cette émission. Il y a Christophe Bonnet qui l'a réalisé. Le mois prochain, rendez-vous le 6 octobre, ce sera une émission spéciale commerce équitable avec le directeur général des cafés Montlango, Jean-Pierre Blanc. À la prochaine.
Live Éthique, c'est terminé. Toute l'équipe de Radio Éthique vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission en public et en direct sur le développement durable. Cette émission sera disponible dans quelques jours en réécoute illimitée sur radioéthique.com, rubrique Live Éthique.